Libre débat. Reportage plateau radio ou son glané sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Bonjour, vous êtes bienvenue dans Libre Débat, comme tous les mercredis de 16h30 à 18h sur le 88.4. Aujourd'hui, dans cette émission, on va rencontrer beaucoup de geeks. On aime bien les geeks et les tati geeks, avec en première partie un reportage que j'ai réalisé en juin 2023 à la première rencontre du réseau Big Tata. C'est un réseau d'archives et de bibliothèques féministes et LGBTQIA+, que je vous propose de découvrir pendant 45 minutes avec un reportage qui s'appelle « Bricoler, créer, sauvegarder les mémoires TPG, les mémoires transpédéguines ». Ensuite, on va se retrouver en direct dans le studio de Radio Galère, où on est là en ce moment, avec nos deux invités. Donc c'est Suzanne et Clubi du collectif Technopolis Marseille qui donc, nous ont fait le plaisir de venir en direct. Bonjour.
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 Voilà. Et elles sont venues nous présenter le festival qu'elles co-organisent à Marseille du 28 septembre au 1er octobre. Ce sera la deuxième édition de Technopolis, un festival qui se passe dans plusieurs lieux avec des projections, des rencontres, un jeu de pistes, de la cartographie pour visibiliser et questionner le recours toujours plus grand aux technologies de surveillance de masse dans l'espace public et qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour réagir à ça. Donc on se retrouve dans 45 minutes, ne quittez pas dans Libre Débat 88.4.
La rubrique des petits conseils d'auto-soins numériques des tatiques.
Reportage en immersion à la première rencontre du réseau Big Data, réseau des bibliothèques et centres d'archives LGBTQIA+ et féministes. C'était le week-end du 3 et 4 juin 2023 à Grande Zéro, Vaux-en-Velin. Bienvenue dans la matrice queer.
Big Data, c'est un réseau d'organisations queer, LGBTQI, TPG, féministes, qui se mettent ensemble et qui travaillent sur une plateforme numérique commune avec des outils pour valoriser leur collection d'archives et de bibliothèques. Voilà à peu près ce qu'est Big Data.
Sur Internet, si on cherche Big Data, qu'est-ce qu'on trouve ?
On va trouver un site web avec un graphisme un peu tout pété parce que je suis pas graphiste en fait, et que j'ai trouvé un gif qui représente un peu la matrice mais rose, voilà, parce que c'est un peu l'idée de rentrer dans les données et les matrices queer. On a un catalogue de bibliothèque où on peut notamment savoir où est quelle ressource, donc où est quel document. Donc par exemple, un livre, s'il est présent à Marseille, à Paris, à Toulouse, maintenant à Bordeaux, à Lyon, on peut savoir qui a quoi, où est quoi, et chaque collectif et organisation reste indépendant et travaille ses propres stratégies et politiques mémorielles. Et ça, c'est ça qui est important, en fait, de faire vivre tout ça. Ça fait 6 ans qu'on se rencontre, qu'on se voit. Il y a des liens qui se sont créés depuis février 2017. C'est le moment où on s'est un peu rencontrés, où c'était les premières rencontres TPG autour des archives qu'avaient organisé Mathias et Clem et des militants de Toulouse. Où après, il y a eu une floraison de collectifs et d'envie. Et maintenant, on travaille ensemble autour d'outils communs et c'est super chouette. Souken, c'est les premières rencontres Big Data. La plateforme numérique, elle existe depuis un peu plus de 2 ans. C'est la première fois que toutes les orgas se rencontrent. Maintenant, on est plus de 15. On est en contact avec plus de 30 orgas francophones, c'est-à-dire aussi au Canada et en Suisse. En moins de 6 mois, ça a été un peu aussi exponentiel par le bouche à oreille. J'ai l'impression qu'on a un peu ouvert les possibles, qu'enfin on se sente légitime et qu'on ait envie de prendre soin des mémoires et de nos archives et de nos histoires et que c'est pas aux autres de le faire à notre place, quoi. Il y a énormément aussi de frustration et de colère face à toutes les violences, notamment les violences mémorielles qu'on se prend dans la gueule en fait. Les processus d'effacement, les processus de censure, les processus de réécriture de nos histoires, de dépossession aussi de nos histoires, de dire qu'on n'est pas légitime en fait pour les écrire alors qu'il n'y a personne d'autre qui doit s'arroger ce droit en fait. Et l'idée c'est que oui on n'est pas scientifique et c'est pas grave, en fait on n'est pas là pour faire de la science, on est là pour parler, pour s'exprimer et pour avoir le contrôle en fait sur nos politiques et nos manières d'agir. Le but au moins c'est qu'on se soit réunis tous ensemble aujourd'hui et que y a des envies. Enfin, c'est trop chouette qu'il y ait un groupe Turbo Trans qui se soit réuni aujourd'hui et peut-être qui va créer des choses. Un groupe aussi autonome Archigouin. Enfin, il y a vraiment des envies qui commencent à émerger de partout et c'est ça qui est dingue, quoi. J'ai un peu évité de chialer tout le week-end, mais en fait, il y a énormément d'émotions et c'est trop chouette.
On fait un atelier zine des plages. Du coup, là, on est en train de créer des mots croisés. Hyper auto-référencé sur ce week-end avec que des blagues pour les initiés, c'est-à-dire pour les personnes qui étaient là ce week-end.
On est en gueule de bois en somme, quoi.
Voilà. Enfin pas moi, mais il y en a qui et voilà.
Et ça va faire un petit journal, c'est ça?
Voilà, on va faire un fanzine. Là on a déjà un quiz des rencontres. Donc par exemple, on peut donner la première question. La première question c'est quelle est la réelle signification de Big Tata? Donc là, il y a écrit « grand-tante », entre parenthèses, « la sœur de mamie », « un très gros taz »,« big tourisme acabien à tendance apocalyptique » ou « un réseau d'archives communautaires très swag ». Voilà, c'est pour donner un peu une idée de...
De la teneur de ce quiz.
Voilà, tout à fait.
Quel tag peut-on lire dans les choses de GZ?
Voilà, quel tag...
J'ai pété sur un keuf. Plus de riches à la cantine, hétéro déconstruit ou plus de PD, moins de LBD?
Voilà.
Ça vole très haut. On est super
bien.
On s'amuse bien.
Voilà.
Des bêtises.
Alors, on est dimanche matin à Grande Zéro à la rencontre Big Tata. Et je viens de trouver quelqu'un qui a participé à l'organisation.
Bonjour, bonjour. Alors, moi c'est Arlo. Je fais partie du collectif de Derrière les Fagottes, collectif d'archives de Toulouse, TPGI. Dans le cadre de mes études, j'avais besoin d'un stage. Je suis venue chez Mémoire de Minoritaire pour faire mon stage. Ça tombait bien puisqu'il y avait les journées Big Tata organisées. Et du coup, j'ai fait ça pendant un mois et demi. L'enjeu, c'était rassembler le plus de collectifs de centres d'archives et de bibliothèques LGBT francophones possibles. Ce qu'on a fait puisqu'on est arrivé à 16 ou 17 collectifs, un truc comme ça. Et l'autre enjeu, c'était loger tout le monde, bien sûr, et assurer toute la logistique et la programmation du week-end. Avec, du coup, c'était une programmation participative. Donc, collectif, tout le monde a proposé des trucs comme un atelier éditathon, un atelier choral, des discussions autour de archives et luttes, archives et vie. En fait, ça intéresse les gens, ce qu'on est en train de faire. Pas que nous, dans notre délire de geek de l'archive, les gens sont contents de venir à un week-end de juin à des rencontres d'archives et de faire des petits ateliers ludiques, quoi. Donc ça fait plaisir. Et puis on s'est tous rencontrés. Et c'est vraiment des personnes trop super, de tout partout. Mémoire des sexualités de Marseille, les héroïnes de Marseille, Mémoire minoritaire Lyon, qui a donc hébergé l'événement. Archives LGBTQI de Paris, les archives de Derrière les Fagottes de Toulouse, Espace QG Bordeaux, la boîte sous le lit du centre LGBT de Bordeaux, la bibliothèque du centre LGBT de Grenoble, Tac. Genre de lutte de Marseille. Queerpadze de Suisse, du coup, en Velay. Les ARCL, Archives, Recherche et Culture Lesbienne de Paris, ouais. C'est le plus vieux centre d'archives. Et j'en oublie certainement. Queer Code, tout à fait. Isabelle, Queer Code.
Tu peux te présenter puis me raconter où on est, qu'est-ce qui se passe ?
Oui, bonjour Isabelle de QR Code. On est aux rencontres Big Data et là on est au niveau du bras zéro et on est en train de dans l'espace où il y a plein de choses qui se passent, notamment on peut jouer à notre jeu vidéo Trace. Et là, il y a une personne mais qui est en train de tester l'épisode 2 et qui commence en fait dans un appartement et en fait on reçoit un appel qui nous dit bah oui, il faut se préparer pour la journée mondiale de lutte contre le sida.
Alors, tu peux décrire un peu à quoi ça ressemble c'est un peu old school, non ?
Ben ouais, complètement. Donc, en fait, c'est du matériel de récupération informatique. Donc, on a fait une borne. En fait, on a récupéré un écran d'un ordinateur, un vieil ordinateur. Et puis, on a fait en bois, on a fait une vieille borne, voilà. Et l'idée, c'est que, ben, en fait, en pixel, on utilise le logiciel libre dont Bitsy. Qui est en fait un logiciel qui est utilisé par la communauté du livre et notamment des personnes LGBTQIA+. Et on a fait ce jeu, on en a fait trois, pour partager l'histoire de lutte contre le sida. Voilà.
Trop bien. Et tu fais ça tout le temps ?
Alors, pas du tout. Alors, moi, je suis pas du tout une gameuse, mais je suis une activiste de lutte contre le sida et j'ai la chance de militer avec plein de personnes très différentes, dont des gameuses et des gamers et dont des personnes qui créent des jeux vidéo. Et ben là, on s'est dit pourquoi pas justement ben, apprendre ensemble, jouer et puis chercher des supports. Donc là, ben, la personne est en train de se galérer. Il veut sortir de l'appartement, n'y arrive pas. Alors en fait, on est très riche dans cet appartement. On a en fait une chambre. On a une chambre. Galère infernale. Donc, cette chambre, en fait, ben là, on va pouvoir aller dans une armoire. Et dans l'armoire, en fait, on va choisir notre t-shirt. Et là, l'idée, ben, c'est de tu vas pouvoir choisir ton t-shirt. On te raconte un peu l'histoire.
Ben, je sais pas encore parce qu'il y a beaucoup de messages. Voilà, ouais. Il y a beaucoup d'infos en même temps. Donc, je sais pas. Je passe direct sur l'esthétique. On réalisait en 1997 comme à Montpellier. Elles ont permis de diffuser des messages de prévention, de récolter des millions de francs à l'époque. Enfiler le t-shirt ? Oui ou non ? Ah zut, je dois recommencer ?
Non. Non, parce qu'en fait, tu en as plusieurs. Donc là, l'idée, c'est de raconter notre histoire de lutte avec des t-shirts qu'on a réalisés. Là, moi, aujourd'hui, j'en ai un d'Act Up Paris qui a été fait il y a 2-3 ans pour collecter des fonds. Et là, je te présente des t-shirts qui sont les miens puisque j'ai eu la chance de faire cette marche. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller vite quand on l'a fait une première fois. Bravo de ta patience. Oui, il faut un certain doigté avec le joystick. Voilà. Donc là, tu peux choisir. Si tu le veux, oui. Et sinon, tu découvres un autre t-shirt.
D'accord.
Moi, j'ai porté à l'existence. En fait, l'idée du jeu, c'est de pouvoir présenter les différentes communautés qui sont mobilisées. Donc là, tout à l'heure, on était avec Ed. Et là, maintenant, tu es avec un autre groupe d'activistes. Et tout à l'heure, on va te proposer un t-shirt que moi, j'ai porté en tant que Gwyn d'Act Up. Tu vois, donc en fait, tu choisis ton t-shirt. Et puis après, tu vas suivre les aventures. Et je te laisse continuer de découvrir.
Et voilà. Et vous faites quoi d'autre à QR Code ? Un lien avec le code ?
Oui, tout à fait. Alors, le code, c'est parce qu'en fait, pour connaître l'histoire des personnes LGBTQI, en fait, il faut connaître les codes de ces différentes générations de personnes. Parce que, en fait, comme toute personne minorisée, minoritaire, on crée, en fait, une histoire, parfois qui est considérée comme une subculture, alors que c'est notre culture. Mais effectivement, il faut avoir des codes pour la comprendre. Et donc, c'est un jeu de mots entre les codes aussi organisés par les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque nous, on est assez axés sur cette histoire-là, et aussi les codes, bien sûr, qui ont été craqués, hein, puisqu'Alan Turing, l'un des fondateurs de ce qu'on peut appeler l'informatique d'aujourd'hui, mais avec d'autres personnes pendant la Seconde Guerre mondiale, ont craqué des codes pour comprendre et déjouer les plans des nazis. Donc, en fait, notre nom de collectif fait référence à tous ces codes, et puis, bien sûr, au QR, puisque avant qu'on soit obligé par l'épidémie de la Covid, mais c'était aussi une technologie assez accessible, qu'il est toujours. Et donc, c'est aussi une façon de pouvoir diffuser de l'information par des technologies et les hacker. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui à la rencontre Big Data ?
Je suis là parce que j'ai intégré le réseau Big Data donc à Lyon. fait, c'est un peu pour moi la première fois que je rencontre un peu tout le monde. Ça fait beaucoup de bien de croiser un peu des gens de plein de villes qui ont les mêmes envies, en fait.
Tu peux expliquer plus précisément qu'est-ce que tu fais, toi, dans Big Data ?
Alors, moi, je m'occupe de la partie informatique, donc de la technique. Big Data, au-delà du réseau qui a vocation à devenir un truc vraiment étalé, fédération, etc., il y a aussi une logique d'archivage de fonds, etc. Et donc, il y a un site web où les gens peuvent déjà consulter des ressources, des références sur des livres, des zines, des machins. Et en fait, pour ça, il faut des outils à la fois en interne pour pouvoir archiver tous ces documents et les cataloguer. Et aussi, du coup, pour les présenter. Donc, mon boulot, c'est de m'assurer que ça ne se casse pas la gueule d'une part. D'une autre part, essayer de lier un peu tous ces outils pour qu'il y ait une recherche qui soit transparente pour tout le monde en un seul bloc sans avoir à s'embêter avec 10 outils différents. Et enfin, essayer de produire en fait de la documentation pour permettre à d'autres personnes de mettre en place ça sans avoir à passer l'énorme montagne de l'informatique. Voilà.
Tu fais ça seul ? T'étais déjà dans les trucs informatiques avant ?
Oui, à la base, je viens du milieu informatique. Ouais. J'ai travaillé un peu quelques années dans des grandes boîtes, des trucs comme ça. Ça m'allait pas du tout. Et j'ai fini dans l'associatif. Et bah, actuellement, je suis plus ou moins seul sur Big Data. Mais justement, un truc qui est de se rendre compte, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir après qu'on ait discuté à l'AG en me disant bah, moi aussi, ça m'intéresse, j'ai envie d'aider, etc. Et on va essayer de monter un groupe voilà, qui arrive à produire des trucs.
Peut-être de dire, c'est un logiciel qui s'appelle Koa et qui est libre.
Ouais, alors c'est un des logiciels, ouais, mais effectivement Koa qui permet de faire le catalogage des livres en l'occurrence, comme tous les autres outils qu'on a mis en place, sont libres, donc c'est-à-dire qu'ils sont non seulement gratuits, mais le code source, donc la recette de cuisine du logiciel est disponible pour tout le monde, et donc ça permet d'avoir des outils qui peuvent être modifiés de manière collaborative. C'est des gens qui sont dans une logique un petit peu comme nous les archives en fait, de partage de l'information, que tout soit accessible, etc. Donc en fait ça s'aligne complètement avec la démarche des archives qu'on a ici.
Donc je te présente Karine, qui fait partie des héroïnes et de Mémoire des sexualités à Marseille, et qui enregistre beaucoup de choses. Donc le premier atelier des rencontres, samedi matin, il y a Morgane qui fait partie de Big Data, qui est archiviste de AIDS à Paris, qui est génial, genre c'est vraiment la resta de l'archive, Morgane. Elle est trop stylée. Donc Morgane proposait un atelier classement d'un fonds, elle l'a appelé comme ça, et c'était du coup basé sur le fonds de Françoise Prouvoyeur. C'est une ancienne militante qui était entre les États-Unis et la France. Donc on lui avait envoyé l'inventaire avant parce qu'elle, elle n'avait pas encore vu le fonds, elle ne le connaissait pas. Et du coup, Françoise était là hier, donc on a étalé son fond sur des tables. On était genre 70, tu sais, bébés archivistes, coltinés autour de nos trois tables. Et en gros, Françoise a donné les éléments de contexte du fond et tout ça. Elle pouvait parler de chaque document. Et c'était trop bien. Et du coup, ça a été un peu le premier... je sais même plus pourquoi je te... Ah oui, Libération.
Après la proposition...
Juste par un petit regard au thème initial.
Beaucoup de gens sont allés emprunter un livre à la bibliothèque. Autant sur les archives, on est un peu dans le flou parce qu'on n'a pas, comme tu dis, un schéma comme celui que tu décris pour les zines. Et l'idée, je crois, c'était de se mettre d'accord, alors avec des variations propres à nos collectifs, bien sûr, se mettre d'accord sur un schéma de métadonnées un peu cohérent entre nous, sinon commun.
Bah, y en a un pour, comment dire, c'est pour les instruments de recherche, il y a... normes internationales d'instruments de recherche, c'est-à-dire qu'en gros il y a des champs qui sont
bien sûr, mais ils sont pas forcément pertinents pour,
oui,
pour les archives telles que nous on les partage,
oui.
Là, de dire bah ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça politiquement ça nous fait chier, etc.
Oui, c'est ça. Bah oui, c'est là-dessus, sur cette base-là, je pense
c'est
que
c'est ça. Okay. Mais merci d'avoir clarifié, parce que moi c'est vrai que la différence entre classer et récoler.
Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Et je crois que tu as animé l'atelier métadonnées, qui est un atelier qui peut paraître mystérieux à des gens qui ne connaissent pas.
Ouais, je crois que c'est mystérieux pour nous aussi. Moi, je m'appelle Yael, je suis aux ARCL à Paris, les Archives Recherche Culture Lesbienne. Et les métadonnées, c'était en gros tout simplement quand on classe des documents, comment on les identifie ? Quelles données on utilise pour savoir de quoi on parle ? Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est un flyer ? Un courrier ? Un pins ? Un t-shirt ? Un guide touristique ? Et si oui, bah on met quoi pour le reconnaître ? Est-ce qu'on met des dates ? Est-ce qu'on met les noms des personnes, des auteurs, le format, la nature du papier, etc. Et en fait, comme on a des fonds très très variés, c'était intéressant de discuter de ça avec des gens d'un peu partout qui ont des collections qui ne sont pas comme les nôtres forcément ou qui n'ont pas les mêmes besoins. Et donc c'était chouette de pouvoir à partir d'un truc un peu très concret, tu vois, qui, comme tu dis, est mystérieux, de se mettre en commun un peu les questions qu'on se posait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un peu toutes et tous besoin des mêmes infos. Donc en fait, on va se revoir pour faire des ateliers sur ça régulièrement. Et en fait, on se sent moins seul et moins en retard quand on se rend compte qu'en fait, on est tout en galère un peu de la même manière.
Tu fais partie des archives lesbiennes de Paris.
C'est pas grave.
Et à cette rencontre Big Tata, tu as été à la rencontre Archigouine, tu peux nous raconter ?
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est que ce projet ?
Bah, en fait, avec des filles d'autres collectifs mixtes, parce que les ARCL, c'est un peu, enfin, c'est même le seul collectif qui est vraiment strictement lesbien et féministe, qui n'est pas un collectif mixte. Dans les réseaux Big Tata, la majorité des collectifs sont mixtes, avec des gouines, des PD, etc. Et du coup, on se rendait compte, et c'est des problématiques que les copines nous faisaient remonter, qu'en fait, elles avaient beaucoup de mal au sein de collectifs mixtes à valoriser et à rassembler des énergies pour visibiliser les fonds et les archives proprement lesbiennes. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien aux ARCL, parce que si on défend cette non-mixité, c'est aussi parce que ça a un héritage des luttes lesbiennes au sein des mouvements homosexuels, où elles ont un peu eu du mal aussi à se faire une place. Et on est parti de ce constat. Du coup, l'idée, c'est de bosser ensemble entre lesbiennes, que ça soit dans des assos mixtes ou non, à l'échelle de la France hexagonale pour le moment, mais les copines belges ou d'outre-mer ou du Québec peuvent participer aussi. L'idée, c'est de se mettre en réseau entre lesbiennes qui s'intéressent aux archives pour créer en fait des outils et des fonds d'archives lesbiennes pour et par des lesbiennes. Voilà. Et en attendant, on va s'entraider pour conserver et valoriser un peu tout ce qu'on a, et puis se faire une petite place pour les rendre visibles, quoi, parce que forcément, elles sont plutôt minoritaires en général dans les fonds, dans les archives, alors qu'en vrai, quand on regarde la composition des collectifs d'archives en France, les lesbiennes, elles sont majoritaires, et donc il y a un petit souci, quoi.
Et alors, du coup, cette première rencontre, elle était à la hauteur de tes attentes ?
Franchement, grave, parce que on a un peu rempli nos objectifs. C'était se rencontrer en vrai, parce que le réseau Archigouine, en fait, on s'était vu qu'en visio, et il grossit un petit peu. À chaque fois, on a des collectifs qui viennent, mais là, le fait de se connaître, ça donne des envies beaucoup plus concrètes. Donc ça, c'est objectif rempli. Le fait qu'on puisse échanger sur des questions qu'on se pose avec les perspectives d'avoir des solutions. Et puis ensuite, sentir et prendre la température un peu des lesbiennes au sein du réseau, ça c'était vachement chouette, parce qu'on a pu constater, comme je te disais, qu'on était loin d'être minoritaire et une question annexe, et qu'on était quand même capable d'être au centre et des projets d'archives et des fonds d'archives. Parce qu'en fait, quand on est la tête dans le guidon dans nos collectifs, notamment à Paris, avec nos problèmes, notre plafond qui tombe, nos étagères à monter, etc., bah, des fois on perd un peu le sens un peu global du truc. Donc c'est chouette aussi de se poser pour prendre un peu de la hauteur et de retrouver aussi le plaisir d'être ensemble, quoi. Un truc comme ça.
Alors là, on est dimanche, il fait très beau, on est sur la terrasse de Grande Zéro. Est-ce que toi, tu peux te présenter puis raconter qu'est-ce que tu as fait pendant cette rencontre ?
Alors moi, je m'appelle Inès, j'ai 26 ans, j'habite Paris et je milite aux ARCL, donc Archives Recherche Culture Lesbienne, qui est une asso d'archivistes Gwyn qui existe depuis les années 80. Donc à ce titre, j'ai été invitée à participer aux rencontres Big Tata. Je suis très contente d'être là, j'ai passé un super week-end. J'ai participé à 2-3 réunions et j'ai surtout eu l'occasion de découvrir un nouveau métier, puisque j'ai donné un gros coup de main pour la régie lumière toute la journée d'hier. Voilà, avec News, grosse dédicace. Des bonnes personnes, de l'échange de bonnes pratiques aussi, puisqu'on a eu l'occasion de travailler un petit peu avec d'autres camarades des collectifs français. Autour de la structuration du réseau Archigouine. Et donc voilà, c'était l'occasion de prendre le temps de se rencontrer, de faire connaissance et d'expliquer où chaque collectif en est dans sa collecte, dans ses pratiques. Et puis ce matin, un atelier sur les métadonnées, sous le soleil, l'occasion de papoter un petit peu de nos pratiques, notamment de récollement, et de voir où chaque collectif en est. Donc le récollement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait... une sorte de pré-inventaire, si l'on veut. Souvent, ça prend la forme d'un gros fichier Excel assez moche, mais en fait, c'est très utile puisque ça permet, à la fois à travers un système de classement dans des boîtes, des tablettes, en fait, des étagères ou des armoires, de cartographier dans l'espace où sont rangés les fonds dont on dispose. Et donc, en fait, ça permet de savoir un petit peu s'orienter. Enfin, ça fournit une base pour un inventaire un peu plus poussé. Donc, le récollement, c'est quelque chose de très utile. Nous, aux ARCL, en fait, on a commencé à mettre en place le nôtre il y a pas très longtemps, grâce à l'arrivée de Doris, qui est notre archiviste pro, qui nous file les gros coups de main et qui est vraiment grosse dédicace à Doris. Grâce à lui, on a pu un petit peu optimiser nos pratiques, même si bon, depuis des années, quand même, les choses marchaient aussi bien, mais sur un autre mode de fonctionnement. Et donc voilà, on apprend ensemble, on échange un petit peu ce qui fonctionne, nos points de galère. Et puis voilà, c'est surtout l'occasion, je pense, de se retrouver, de parler de choses qui nous intéressent et de voir un petit peu si on peut donner des coups de main, dans la perspective aussi de se revoir. Voilà, là, ce qui est sorti de la plupart des échanges, c'est qu'on allait peut-être essayer de faire un petit tour de France, des collectifs sœurs pour pouvoir passer un peu de temps là-bas avec les autres, voir leurs fonds, voir comment ils bossent, et puis consolider les rapports, quoi.
Et alors, t'as appris un nouveau métier, la lumière, mais toi, les archives, t'es archiviste ?
Alors absolument pas. Moi, je suis pas archiviste, mais par contre, j'ai toujours été très intéressée par les questions mémorielles. Dans le cadre de mes études, j'ai eu l'occasion de rédiger un mémoire sur la patrimonialisation des mémoires, mais immigrées, pas du tout sur le registre LGBT. Ça m'a en fait ouvert un petit peu la voie vers ce monde-là. J'ai eu l'occasion du coup de rencontrer des archivistes, etc. Et j'étais assez intéressée parce que ces personnes faisaient au quotidien. Et puis je trouve que oui, le travail de la transmission de la mémoire et surtout le fait de faire vivre les archives, parce que en fait les archives, si elles sont juste stockées dans un endroit où personne ne les consulte, bon, c'est chouette, mais bon, elles tombent un peu en décrépitude. Et l'idée, c'est de les valoriser, de les faire redécouvrir. Et donc voilà, j'ai intégré les ARCL. Officiellement, je crois, en janvier dernier. Officieusement, mes premières visites, c'était plutôt au courant de l'automne, septembre-octobre, grâce à une amie qui militait là-bas depuis quelques années. Voilà, j'ai été très bien accueillie, très bien prise en charge. Et puis aujourd'hui, à mon tour, j'accueille quand je peux les gens qui viennent. On a beaucoup de visiteuses, en fait, parce qu'on est donc situé dans le sous-sol de la Maison des Femmes de Paris, dans le 12e arrondissement. On accueille des visiteuses, des étudiantes, des chercheuses, des personnes voilà, qui ont envie de nous aider. Et puis on expose, on fait des choses, on essaye de tenir un petit peu le collectif en vie, mais plus qu'en vie même, en expansion, quoi. Et ça marche bien. Voilà.
Ok. Merci.
De rien, avec plaisir.
J'espère rajouter quelque chose.
Écoute, oui, j'invite les personnes qui peut-être entendront ma voix à s'intéresser aux archives, parce qu'en fait, c'est pas qu'une histoire de passé, c'est aussi préparer l'avenir, c'est aussi rencontrer des gens chouettes, se plonger dans des histoires. Enfin, voilà. Moi, j'ai en mémoire une anecdote lors de ma première visite aux ARCL. J'ai découvert des publications lesbiennes des années 20, tu vois, des trucs que j'aurais jamais pensé un jour toucher de mes mains, lire, et en fait tu te connectes à des meufs qui ont existé il y a 100 ans et tu vois qu'elles étaient traversées par les mêmes dramas, les mêmes histoires, les mêmes chamboulements émotionnels, et il y a quelque chose d'éminemment touchant dans ça, quoi. Donc voilà, les archives, c'est pas qu'un truc de rat de bibliothèque où on est dans l'obscurité, dans le froid à se faire chier. C'est vraiment quelque chose de vivant et de chouette, quoi. Ça peut être très joyeux.
Alors on va rendre la parole, celle des tatas et des folles. Picoler, créer, sauver les mémoires des TPG.
Alors, c'est la fin de l'atelier choral. Restitution.
En fait, celle des tata et des folles, au début, c'était réunir tata et folle. Du coup, c'est... Voilà.
Il y a eu une scission dans le groupe.
Aïe, aïe, aïe.
Ah,
des problèmes.
Alors du coup, ce qu'on a écrit, nous, c'est quand j'étais sur le bout de la langue, roulons la pelle des souvenirs, pénétrons les trous de mémoire et nos histoires en boomerang.
Ah ouais, d'accord.
Ah, ça va changer là, ouais.
C'est la mort métaphore filée de cul, quoi, qui peut aller dedans.
Alors nous, on a écrit: sous la couette, la mémoire, sortez les flanelles des placards, les archives des tiroirs, toutes les pédales pour un local, toutes les archipédales pour un local.
Voilà. Et attendez, attendez.
Et on a une petite proposition de potentiel refrain. C'était quoi l'air ?
C'est gay.
Voilà. Ouais, c'est là et là-bas. Je suis très mauvais sur les airs, donc ça va pas du tout ressembler, mais c'est pas grave. Big Tat, c'est en blanc. En réseau pour être plus gros contre tous les fâcheux. Voilà. C'est acté du coup, super.
Depuis que je côtoie ma voisine, elle me donne plein de magazines. On mate des photos coquines avec des jolies trombines. On cherche les bonnes adresses pour aller mater des fesses. On lit les petites annonces sans oublier les références. On va rendre la parole, celle des tatas et des folles. Picoler, créer, sauver les mémoires des TPG. Queer, queer, lions-nous, Big Tata, rassemblons-nous, en réseau pour être plus gros, contre tous les fachos. Depuis que je vois ma voisine, elle me donne plein de magazines, on m'a des photos coquines, avec de jolies trombines, sous la couette la mémoire, les flanelles hors des placards, les archives des tiroirs, archipel pour un local. Quand je l'ai sur le bout de la langue, où la belle des souvenirs pénètre ces trous de mémoire et nos histoires en boomerang. Queer, queer, soulevons-nous, Big Tata, rassemblons-nous, en réseau pour être plus gros contre tous les fachos. Queer, queer, souvenons-nous, Big Tata, rassemblons-nous, en réseau pour être plus gros contre tous les fachos.
Est-ce que tu peux te présenter et raconter l'atelier dont tu sors ?
Moi, je m'appelle Paul, je suis à Mémoire des sexualités à Marseille et j'ai fait l'atelier Archives Trans qui avait lieu cet après-midi, donc qui a réuni un peu, plutôt en mixité choisie, toutes les personnes qui s'intéressaient aux archives trans, qui étaient à leur recherche ou dans leur création. Et c'était assez chouette de pouvoir un peu voir... Bah, déjà qu'il y avait beaucoup de structures différentes et de voir quel était leur rapport aux archives, leur fond s'ils en avaient, et de pouvoir un peu aussi délimiter ce qui existait comme ressource déjà et comme information sur les différents groupes. Je pense que ça a aussi permis à des personnes de découvrir des structures qui avaient existé. Moi, ça m'a donné en tout cas, perso, des envies de créer des moments à Marseille aussi où on puisse, à Mémoire des sexualités, défricher un peu les fonds et retrouver un peu ces petites bribes d'histoire pour les tisser et comprendre aussi bah, c'est quoi les fonds d'archives trans dans l'association à Marseille. Ça m'a aussi donné envie de poursuivre avec un ami un projet de collecte d'histoire orale qu'on a avec les travailleuses de la rue Curiole. Donc, qui est une des rues de prostitution depuis très longtemps à Marseille, dans lesquelles il y a beaucoup de travailleuses trans. Et ouais, de continuer à un peu collecter ces récits-là, qui font un peu partie de l'histoire locale aussi à Marseille.
Ce que je veux faire déjà, c'est voir comment il déconstruit l'article. Alors, t'es dessus ?
Sur mineur trans.
Mineur trans.
Enrichir. Et là, l'idée, c'est de. Bibliographie, renseigner l'article.
Ouais.
Ok. Et enrichir l'article.
Voilà. Wikipédia, c'est un travail collaboratif. Et a priori, on n'est pas là pour détruire tout le travail qui a déjà été fait. Mm-hmm. Donc, on va essayer de voir déjà si on peut s'aménager des espaces dans l'article, si les informations qu'on a, elles peuvent rentrer dans certaines sous-sections, et si besoin, on crée la sous-section. Et en fait, si à un moment, la sous-section elle devient tellement énorme qu'il y a besoin peut-être d'un article à part entière, là, à ce moment-là, on peut peut-être créer un nouvel article. Donc là, par exemple, mineur transgenre, est-ce que sur cette page, il y a une section bibliographie ?
Il y a référence et bibliographie, c'est...
Il y a bibliographie. D'accord, parce qu'en fait, référence, c'est souvent quand on cite quelque chose. Ouais. Alors que bibliographie, c'est pas forcément les ouvrages qu'on aura utilisés.
Ouais.
Mais c'est des, sur ce sujet, vous allez trouver tel ou tel ouvrage de machine. Nous, on va plutôt se situer dans bibliographie.
Okay.
C'est les travaux universitaires qui peuvent enrichir la page. Et ben après, vous faites modifier. Voilà.
Okay. Là, toi, tu rajoutes des livres de la bibliothèque d'ici.
Là, ouais.
Là, c'est un article.
Là, c'est un article qui est sur Internet.
Aujourd'hui, il y a en fait vraiment une réflexion sur Wikipédia sur des conventions bibliographiques concernant les personnes trans, qui ont donc eu un passé sous un nom et qui ensuite ont transitionné et ont produit autre chose. Ben, comment est-ce qu'on gère tout ça? Est-ce qu'on met le nom d'origine et ainsi de suite? Donc il y a des réflexions. Et en fait, bon, bah, quand il y a trop de modifications, souvent, bah, y a des gens avec des pouvoirs, on va dire, supplémentaires sur Wikipédia parce que c'est des grandes contributeuristes qui ont finalement accédé à un statut d'administrateuriste. Et donc, elles ont le pouvoir, ces personnes-là, de suspendre momentanément les modifications sur une page, de verrouiller potentiellement aussi si c'est sensible et de dire là, on n'y touche pas.
Il
y a toujours une recherche de neutralité. C'est pour ça que là, je vois, moi, sur mon projet Transidentité, il y a beaucoup de débats. Les pages qui sont les plus modifiées, donc c'est les pages relatives aux mineurs trans, Dora Mouto, Marguerite Stern. En fait, les accusations de transphobie à l'encontre de Marguerite Stern sont régulièrement combattues. Donc, régulièrement réaffirmé en fait aussi, parce que bah, c'est le cas. Après, je t'avoue que moi j'ai pas été sur ces pages en particulier parce que j'ai pas envie de m'infliger ça. Et donc, je me concentre plus sur des pages où a priori il y a moins de débats. Sur typiquement la littérature trans, ça n'intéresse personne. Il y a beaucoup moins d'enjeux politiques en fait à définir ce que c'est la littérature trans. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on cite des sources de qualité et qu'on ne déforme pas les propos qui sont dans ces sources et qu'on le rédige de façon neutre, il n'y a pas de raison en fait que la modification soit rejetée. Voilà.
J'ai fait un
nouvel article. Donc, le premier article on a créé, c'était Mémoire minoritaire, parce qu'on est là. Donc, on a ajouté plus d'informations. C'est quoi Mémoire minoritaire? Donc, c'est une association LGBT d'OEI et c'est basé en France et à Vaux-en-Velin. Donc, ça, c'est notre premier article. Deuxième chose qu'on a fait, c'était on a amélioré l'article de Chaos GL. Qui était une association en Turquie qui travaille sur les communautés LGBT. On avait eu deux types de références. La première référence qu'on a utilisée, c'était un bouquin qui parlait de cette association. Donc, on a ajouté une référence vers ce bouquin. Et la deuxième référence qu'on a utilisée, c'était une thèse écrite par Idil Sahen. Et on a créé un nouvel article sur cette thèse. Et ensuite, on a fait le lien vers cette thèse et aussi on a fait le lien vers Chaos GL de cette thèse. Donc, les liens vers deux côtés, dans deux côtés. Donc, voilà, c'est ça, on vient de. Donc, grâce à ça, on a 6 associations qui LGBTI qui sont documentées aujourd'hui. En total, on a ajouté une.
Alors là, on est dans une salle du GZ.
30.
Et pour la rencontre Big Tata, il y a un grand mur qui fait au moins 10 mètres de long. En fait, c'est la queerologie. Non, la
queerologie. Chronologie.
Avec un Q, ouais.
Chronologie queer. Okay. Et du coup, c'était à proposition de rajouter des petites dates dans la frise. Ça va jusqu'à maintenant 2023, donc où il y a marqué première rencontre Big Tata 3 juin 23 avec un gros cœur. Et puis après, on peut se balader. Et alors, tout le monde a mis un peu des choses, ça peut être des choses personnelles comme.
Par exemple, 2015, je tombe amoureuse de ma meilleure amie et je découvre que je suis lesbienne.
Ouais, voilà, c'est super. Et puis il y a quelqu'un qui a dit moi aussi, pareil. Je tombe amoureuse de ma femme dans une asso lesbienne de Paris. J'étais mariée à un mec et j'ai tout plaqué pour elle. No regrets.
Et après, il y a des trucs plus comme...
2013, j'arrive d'Italie et je découvre que la Manif pour tous existe.
Ouais. Et je trouve que c'est super chouette de lier aussi les chronologies intimes à la grosse chronologie. Enfin, je sais pas. Vous, ça vous fait quoi? Ça vous donne envie de marquer quelque chose?
Ouais, grave. Non, c'est...
Alors, il y a des stylos en bas pour rajouter quelque chose.
S'exprimer.
Bon, bah là, c'est dimanche, c'est un peu la fin de la rencontre. Toi, je crois que particulièrement, bah, tu as organisé la soirée d'hier. Du coup, tu peux raconter un petit peu comment c'était?
Moi, c'est Marguerin. Je suis bénévole à Mémoire Minoritaire. Et au Bras Zéro, la bibliothèque LGBT du Grand Zéro, on voulait faire une nuit de la poésie queer, LGBT, féministe. Et du coup, on a invité quelques artistes à venir performer. Et pour l'occasion, on a imaginé une petite scéno avec News qui faisait les lumières, qui était incroyable. Des podiums dans l'espace où les poésies se succédaient un peu comme ça pour créer un peu du rythme avec des jeux de lumière et tout. Et ça a plutôt bien marché. Et moi, j'étais trop content qu'il y ait Béatrice Bréraud, qui est une poétesse lesbienne lyonnaise que j'adore. C'est un peu une ancienne et en fait, elle a commencé à écrire en écriture non-binaire et inclusive au début des années 2000. Et c'est quelqu'un qui est plutôt dans un réseau poésie contemporaine. C'était trop chouette de l'avoir ici parce que bah, pour moi, c'est un génie et c'était très beau, sa lecture. Et, sinon, il y a plein d'autres choses que j'ai adorées. Mais...
Ouais, vas-y, tu peux refaire le programme. Ouais. Je mettrai les références.
Donc, on a commencé par Béatrice Bréraud. Après, il y avait un concert de Limas qui fait de la chanson avec des percus corporels et de la guitare. C'était un très beau moment sous la pluie battante, parce qu'on avait un déluge qui nous tombait sur la gueule, et du coup, c'était un petit moment tout moite. Il y avait Emné Nassereddine, qui est une poétesse franco-libanaise. C'était très, très fort aussi. Henri, Grand Garçon et Nuage Rose, qui ont fait de la techno-pédé. C'était trop chouette. Sarah Mishkin, Célia Louise Château, qui sont de Paris. Gorge Bataille et Meryl Amp, qui font de la noise queer lesbienne, crado et powerful. Et qui c'est que j'oublie? Et Colza Electric, Electric Colza avec Albelac et Monkey Monkey. Et ça, c'était un grand moment, c'était hyper chouette aussi, de la poésie mise en scène.
La chaleur doit la brise à même les rues. Des oiselles languides sifflent du princesse Nokia sur les câbles haute tension au-dessus de la voie ferrée. La déesse lesbienne lozérienne, Lorelei Lalala, dresseuse de rats et tabagiste active, rencontre Colza, première du nom, butch gersoise de truie en noix, dans un squat transpédéguine de la capitale occitane, dans lequel elles échangèrent entre autres leur salive et un quart de MD. Ce soir-là, sur un canapé de cuir blanc, Lorelei Lalala chevaucha Colza et scella dans un baiser le début de leur union. Déposant un allume-feu dans les reins de Colza, que seule l'allumette de son regard de poivre vert peut faire virer à l'incendie. On raconte que leurs langues couplées ont l'autonomie d'un jeune faon et galopent témérairement sur la peau du monde, électrisée par la morsure des nuits, noires et acides comme les fruits du sureau. On raconte que leurs baisers visitent les songes de Tous les bébés gouines en devenir, seuls dans leurs lits adolescents, déposent dans leurs reins un allume-feu, déclenchent des incendies, arrosent le fruit de la révolte. Que dès lors, elles deviennent aimants et bavardes. Qu'en fermant les yeux et en étirant ses oreilles, à chaque minuit pile, on peut entendre le vaste murmure de tous les sexes lesbiens à des kilomètres à la ronde, roulés dans l'appendice des songes, sous les toits et dans les rues, écumés dans les draps et sur les lits, sur les corps chiffons et les paupières fièvres. Que c'est le plus beau son qu'il soit donné à quiconque d'entendre. D'automne, alors qu'un vent fébrile chevauchait le bitume, Lorelei, Lalala et Colza descendirent dans la rue pour manifester auprès d'un millier d'autres queers, pour hurler leur rage against the machism. Et la rue, elle est à qui ? Elles firent corps ensemble, formant une chimère monstrueuse, rutilante de paillettes et de couleurs, tumescente et arachnomorphe, à pattes, à poils, à antennes et de dents, de glottes, de sabots et de fer, tapant sur des tambours à force bras, avec force joie, les pommes cloquées, les doigts saignés, une forêt de pancartes fleurissant au-dessus de leur tête et chanter, se regarder, se sourire, se le dire du bout des lèvres, je te crois, du bout du cœur, je te crois. On raconte que les CRS perdirent patience devant cette bête d'amour et de gouaille grossissant à vue de matraque. Ils tentèrent de la démembrer en appelant à la dispersion. C'est alors que dans la rue déserte et dans la clameur des résistantes, Lorelei, Lalala et Colza s'avancèrent face au cordon armé des forces de l'ordre et, murés dans leur désir, s'embrassèrent. Les tirs de lacrymo fusèrent, saignant la nuit comme des filantes, des gerbes de glaïeuls, tirant sur les flaques des réverbères un rideau de fumée, des moutons de brume ricochant sur le coltard. Et Lorelei, Lalala d'embrasser Colza, et Colza d'embrasser Lorelei, Lalala, faisant circuler entre leurs lèvres ouvertes l'air sain de leurs poumons à bloc de love, tandis que des larmes de gaz érodaient leurs joues. Pas un tir ne les toucha. Elles se tinrent invincibles et intouchables dans le feu d'artifice.
Vous venez d'écouter un reportage des Tati Geeks en immersion dans la première rencontre du réseau Big Tata, réseau des bibliothèques et centres d'archives LGBTQIA+ et féministes. C'était le week-end du 3 et 4 juin 2023 à Grande Zéro, Vaux-en-Velin. Vous pouvez retrouver ce son et toutes les références sur le site radiorageuse.net. Et pour plonger dans la matrice queer, l'adresse c'est https://bigdata.org. Le son du début, c'est Nuage Rose et Henri Anderson. Le son de la fin, c'est un extrait de Colza Electric, performance de Al Blayak et de Monkey Monk.
À
Alors, rebonjour, bienvenue donc sur Radio Galère 88.4. On va passer donc de Big Data à Big Data, ça n'a pas grand-chose à voir à part le nom, avec nos deux invités. Alors, on est avec Clubby. Salut. Et Suzanne. Hello. Donc qui font partie du collectif Technopolis Marseille. Et on est vraiment super contente de vous accueillir en direct, merci d'être venu. Pour parler, on a donc 40 minutes devant nous pour parler du festival Technopolis, donc c'est la deuxième édition à Marseille, du 28 septembre au 1er octobre, et qu'on a vraiment envie d'inviter les auditeurs et les auditrices de Radio Galère à venir à ce festival. Alors peut-être vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que, d'où ça vient ce nom Technopolis.
Bonjour, maintenant on est le collectif Technopolis de Marseille. On existe depuis 2019 maintenant et on est particulièrement actif à Marseille. Alors notre lutte, on est mobilisé autour des dispositifs de surveillance qui quadrillent l'espace public à des fins de surveillance et de répression policière. On existe depuis 2019 et on est particulièrement actif à Marseille parce que Marseille est une des villes les plus vidéosurveillées de France. C'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, parce que la ville n'est pas forcément très loquace, contrairement à d'autres villes comme Nice ou Levallois, par exemple, sur le sujet. Et du coup, ça fait partie de notre travail aussi d'aller rechercher, d'aller documenter, d'aller recenser les caméras de vidéosurveillance qui sont particulièrement nombreuses à Marseille. On en a des nombres à peu près 1600. Qui sont déjà en place, 500 qui ont été annoncés dans le cadre de Marseille en grand, le nouveau plan de Emmanuel Macron. Et parmi toutes ces caméras, il y en a une cinquantaine qui sont équipées de vidéosurveillance, enfin qui sont de la vidéosurveillance algorithmique, c'est-à-dire qu'on ajoute une couche d'algorithmes sur des flux vidéo existants pour automatiser et pour faciliter entre guillemets le travail de la police.
Donc la ville la plus surveillée de France.
Une des villes les plus surveillées de France, ouais.
C'est difficile en fait de savoir. Toutes les villes sont pas en effet très, sur tous ces sujets-là très transparentes sur le nombre de caméras qu'elles ont, où elles les installent. Et donc on est sûrement dans le top 10, peut-être bien même dans le top 5 des villes les plus vidéosurveillées. De France et je voulais juste rajouter, c'était de dire que en fait les caméras de surveillance dans la ville, elles existent depuis les années 90 en fait ça se développe et Technopolis c'est une campagne qui est issue d'un programme lancé par la Quadrature du Net. Et parce que qu'est-ce qui change là à partir de fin des années 2000, fin 2010, c'est que c'est vraiment toute la question des algorithmes et comment on va rajouter des couches pour automatiser le traitement de l'image. Parce que en fait, avant, comment ça se passe? Là, toutes les 1600 caméras de Marseille, le flux, il est envoyé au centre de supervision urbain où il y a des agents en permanence qui les regardent, qui se relaient. Et en fait, un des arguments des industriels, c'est de dire « Bah oui, mais en fait, on en a installé tellement maintenant qu'en fait, avec nos 4-5 agents assermentés, bah en fait, on n'arrive pas à regarder toutes nos 1600 caméras. » Donc, il y a des industriels qui viennent nous dire « Bah écoutez, on va vous vendre un logiciel pour automatiser le traitement de l'image qui va permettre de détecter des comportements suspects dans l'espace public. » Et donc c'est vraiment ça qui change, et c'est assez ironique parce que finalement on a installé toutes ces caméras et cet argument de dire on rajoute de l'automatisation, ça montre bien qu'en fait elles servent pas à grand chose. Enfin en fait il y en avait tellement, et il y a même des études indépendantes et la Cour des comptes aussi qui montrent qu'en fait elles servent que dans 2 ou 4% des cas d'affaires judiciaires pour retrouver les coupables.
Ok, donc elles ne servent pas à grand-chose dans le sens qu'elles ne servent pas à élucider des crimes, mais elles doivent bien servir à quelque chose quand même, non? Sinon, à quoi ça sert alors? À qui elles servent?
Je pense que ça sert énormément à l'agenda politique des élus au niveau local, au niveau national, qui est de dire avec... ça fait des années qu'on a un discours sur... la première préoccupation des Français est la sécurité. Et c'est un problème complexe, en fait, la sécurité. Et là, en fait, il y a un outil assez simple. On peut aller faire de la communication et dire, regardez, j'installe des caméras dans le quartier, je prends en compte cette demande de la population et tout ça. Il y a ça, l'argument politique. Après, il y a vraiment aussi la question de... c'est aussi la mise en place d'une surveillance de la population, 24 heures sur 24. Et ça, les localités, les municipalités, l'État a aussi un intérêt à ça.
Mmh. Et puis il y a aussi, je crois, toutes les entreprises qui alimentent ce dispositif. Vous voulez en parler un petit peu?
Si, on peut pas rentrer dans les détails, mais clairement, et ça c'est vrai, par exemple sur le site technopolis.fr ou sur le forum Technopolis, c'est beaucoup aussi documenté par plein de gens partout, sur les différentes entreprises qui participent à ça. Et c'est vrai que c'est souvent en plus des technologies qui finalement ont été développées dans le cadre plutôt militaire et qui sont revendues ensuite, en fait, après au civil. Et c'est un marché, en fait, très juteux. C'est aussi, c'est sûr que c'est un marché très juteux pour les industriels de la surveillance.
D'accord. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment il est né, ce collectif, et quels objectifs il s'est un peu fixé ?
Oui, bien sûr. Donc c'est depuis 2019, donc à Marseille, et à peu près en même temps, en fait, au niveau national. À l'origine, on est issu d'une campagne de la Quadrature du Net, qui visait donc à faire exister ces caméras et faire exister cette problématique dans le débat public. Et l'idée, c'était de s'organiser au niveau local, parce qu'en fait, la technopolis, elle a des expressions qui sont très différentes en fonction des villes. Donc à Marseille, c'était des expérimentations de vidéosurveillance algorithmique, mais à Saint-Étienne, il y a eu des micros dans la rue, par exemple. Mmh. Il y a eu plein de... En fait, c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'être présent sur le terrain, et nous, c'est ce qu'on fait, pour aller recenser toutes les différentes initiatives des entreprises privées qui s'allient avec les collectivités pour tester sur nous leur nouvelle technologie, quoi.
C'est vraiment des tests ?
C'est des expérimentations. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est aussi comme ça que la nouvelle loi Jeux Olympiques, effectivement, c'est les termes utilisés. Ouais, c'est des tests, des expérimentations. Ouais.
Vous pouvez rappeler un petit peu cette loi, en quoi elle consiste ?
Donc c'est une loi qui est entrée en vigueur déjà donc depuis cet été, qui utilise l'occasion des Jeux Olympiques pour massifier, pour légaliser la vidéosurveillance algorithmique, donc celle qui était elle-même déjà en test à Marseille depuis quelques années, qui consiste, donc, comme l'a expliqué Suzanne, à mettre une couche algorithmique sur les flux de vidéos pour détecter des comportements qu'on a dit comme étant suspects ou anormaux, et les faire remonter donc par le biais d'alerte aux policiers. Et donc elle va être lancée pour les Jeux Olympiques, donc qui sont un peu un événement entre guillemets dépolitisé. Et ensuite, alors c'est souvent un peu une pied dans la porte, quoi, pour ensuite la laisser en place. En fait, elle va probablement pas disparaître. En fait, c'est aussi un moyen d'accoutumer et de banaliser ces technologies. Parce qu'une fois que toutes les caméras ou les portiques de sécurité seront installés, on va probablement pas les désinstaller. Voilà. Donc c'est une façon aussi de...
Ouais, c'est ça. Et en fait, avant que la loi JO ne passe, en fait, toutes les expérimentations qu'il y avait au niveau local, en fait, elles étaient illégales. En tout cas, à Marseille, la vidéosurveillance algorithmique qui a été mise en place a été illégale dans le sens où il n'y a pas de cadre juridique qui encadrait ces nouvelles technologies. Et là, on est vraiment... Donc, on avait encore des moyens d'action au niveau local et au niveau national pour, et ce que beaucoup a fait la Quadrature du Net, d'attaquer les collectivités, les marchés qui étaient mis en place avec ces dispositifs-là. Maintenant, avec la loi JO, donc là, l'argument a été de dire, voilà, on va avoir un gros événement avec énormément de monde, donc il faut qu'on ait toutes les possibilités à notre portée pour mieux gérer, et donc on va tester, expérimenter. Donc c'était vraiment l'argument de l'expérimentation pour rassurer les gens, en disant, mais non, vous inquiétez pas, on va pas mettre la reconnaissance faciale, D'ailleurs, le chiffon rouge a un peu été agité pour pouvoir dire après, non, mais vous inquiétez pas, on ne fait pas la reconnaissance faciale, on fait juste la vidéosurveillance algorithmique et on l'expérimente pendant les JO. Mais d'ailleurs, en fait, on va continuer jusqu'en 2025. Les JO, ils s'arrêtent en 2024, mais là, le décret, il continue jusqu'en 2025 pour pouvoir évaluer... le dispositif et la mise en place, ils sont déjà en train de dire en fait que ça va continuer. Et ça, c'était un des arguments que la Quadrature du Net, Technopolis, a essayé de contrer, mais voilà, qui a été peu audible, parce qu'il faut rappeler quand même que la loi, elle est passée en plein milieu de la réforme des retraites, quoi. C'était, je crois que ça a été voté le 23 ou 26 mars, hein, quelque chose comme ça.
Oui. Ouais. Puis aussi, moi, ce que je trouve vraiment super dans le travail que vous faites, c'est que c'est un gros travail de documentation et de vulgarisation, parce que souvent, c'est des lois qui passent avec des discours très techniques, qu'on saisit pas forcément tous les enjeux qu'il y a derrière. Donc vous faites vraiment ce travail un peu d'éducation populaire, de rendre accessibles ces infos.
Ouais, c'est vraiment ça le but, parce que en effet, ça peut paraître complexe alors que ça l'est pas tant que ça. En fait, quand c'est expliqué de manière simple et c'est à la portée de tout le monde de comprendre les enjeux, en fait, et les personnes qu'on rencontre quand on fait des actions de terrain l'ont très bien compris. En fait, je me souviens d'une fois où on avait fait du collage d'affiches et finalement, une personne qui me disait, c'était au moment, en fait, la Quadrature du Net a déposé une plainte collective auprès de la CNIL contre le ministère de l'Intérieur sur, justement, les caméras, la vidéosurveillance algorithmique, l'utilisation de la reconnaissance faciale dans certains logiciels policiers qu'elle a déposé l'année dernière. Et il y avait une personne qui me disait, ouais, alors je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je veux pas ça, c'est Black Mirror, quoi, en fait. Donc ça, c'est bien passé. En fait, les gens n'ont quand même pas trop envie de ça. Il me dit, oui, mais les caméras, ça peut servir. Donc en fait, et c'est vrai que nous, on apporte là la question, OK, la question algorithmique, elle est vraiment problématique parce qu'on commence à automatiser ça, le traitement de l'image. Et les personnes, elles disent « Ok, mais moi, j'ai rien ». Donc, le gros argument qu'on nous dit, c'est quand même « J'ai rien à me reprocher ». Soit « J'ai rien à me reprocher », en fait, ou « J'ai rien à cacher, donc c'est pas grave ». Et deuxième argument, en fait, de toute façon, t'as Google, t'as Gmail, t'as un smartphone, tout le monde sait déjà tout de toi. Donc, deux choses, c'est que j'ai rien à cacher, en fait, ça, c'est quand même contextuel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, peut-être que... nos actions, tout ce qu'on fait dans la rue rentre dans le cadre de la loi. Mais en fait, du jour au lendemain, on l'a bien vu, ces dernières années, la loi, elle change rapidement, même rien que pendant l'épidémie de Covid. Il y a un jour, vous rentriez à 19h15 chez vous, vous étiez dans le cadre de la loi. Le lendemain, à 19h15, vous n'y étiez plus. Et là, pour autant, la caméra à l'angle de la rue, elle l'a vu, elle a enregistré ça, vos déplacements. Et le deuxième argument qui est de dire Google c'est déjà tout de moi, en fait c'est quand même pas pareil que ce soit Google finalement ou que ce soit l'État ou la municipalité et qu'ils puissent avoir un historique de vos déplacements dans la ville, même s'ils sont pas conservés quand même ad vitam aeternam.
Même si on veut pas non plus avoir l'historique de Google, mais
c'est ça.
C'est quand même tu caractériserais ça, un cran au-dessus ou un danger différent ou...
C'est un peu les deux, quoi. Enfin, en tout cas, c'est une autre dimension, quoi. C'est sûr que voilà, on est bien évidemment en plus à Technopolis et on a énormément dans nos camarades et dans les militants et militantes de Technopolis des gens qui viennent du logiciel libre. Et donc, on n'est pas des partisans des GAFAM, bien évidemment. Et que c'est problématique aussi, en fait, la surveillance qui est exercée par les GAFAM, enfin, et l'enregistrement de nos données, ça c'est sûr. Donc en fait, hiérarchiser entre les deux, quelle est la pire ? Non, il n'y a pas ça, en fait, on n'en veut pas dans les deux cas. On n'en veut pas, mais c'est, je pense que ça donne en fait au pouvoir étatique quand même un pouvoir démesuré, en fait. Enfin, en tout cas, beaucoup plus important, je dirais.
Bien sûr, ouais. Parce que si on prend un peu de recul, on peut aussi se demander qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement pour un État de surveiller sa population 24 heures sur 24, quoi. Comment est-ce qu'ils nous perçoivent ? C'est-à-dire que déjà, par défaut, on est tous suspects. tous coupables, et c'est à nous après de prouver qu'on est innocent. Bon, face à un policier, on peut peut-être argumenter. Face à la justice, on a des recours. Face à l'intelligence artificielle, c'est quand même un peu plus compliqué. Et c'est aussi dans une logique de contrôle du corps social, de nos esprits, de nos libertés, pour museler en amont toute forme de manifestation, toute forme d'expression, mais aussi stigmatiser, marginaliser, parce que les comportements qui sont jugés anormaux, donc déjà...
Comment ça marche?
C'est une très bonne question. C'est les entreprises privées, donc Thales, Engie et consorts, en collaboration, ou pas forcément d'ailleurs avec les collectivités, parce que souvent les collectivités ne savent même pas vraiment en fait ce qu'il y a derrière les algorithmes, qui vont décréter ensemble qu'un comportement est anormal. Un comportement anormal, aujourd'hui, ça va être quelqu'un qui reste statique dans l'espace public plus de tant de temps. Ça va être un groupe de personnes de plus de... Enfin, un regroupement de plus de 6 personnes. Donc, une manifestation, quoi. Ou même pas. Enfin, on peut se retrouver juste avec ses amis et c'est louche. Ça peut être allongé dans l'espace public. Donc, ça sous-entend qu'on est probablement sans domicile ou en précarité. C'est plein de situations qui, en fait, sont même pas bizarres, ni même anormales, ni même qui sont des infractions, en fait. Parce que se retrouver dans l'espace public à plus de 6 personnes, c'est pas une infraction. Mais ça montre quelque chose, en fait. Ça montre que on n'a pas envie, enfin, l'État n'a pas envie que les gens fassent ça. Donc, c'est une logique de contrôle et de marginalisation, parce que c'est toujours les mêmes populations qui sont visés en fait par ces algorithmes.
Oui, d'avoir un espace public en fait très normalisé, quoi. C'est-à-dire
très pacifié.
Ouais, et de se dire parce que dans les comportements suspects aussi, c'est par exemple repérer du tag ou de l'affichage. Donc c'est vraiment de se dire on veut un espace public où les gens se déplace son mouvement, mais ne reste pas, ne s'organise pas collectivement, que ce soit pas un espace de liberté et d'expression, en fait, aussi ouvert à tout le monde, quoi.
C'est la vision d'une ville comme un flux. On va d'un point A à un point B, on a un but, on va consommer, on va faire quelque chose, mais on reste pas dans l'espace public.
Ouais, il nous appartient pas réellement.
Il nous appartient pas, non. Et tous ceux qui sont dans l'espace public, donc les gens qui sont en situation de précarité, ils gênent. Donc on les enlève, quoi. Enfin, on les vise avec les algorithmes et on va les...
Et vous m'expliquiez avant l'émission que cette politique, en fait, d'installation de caméras et de caméras intelligentes, c'était un peu indépendant il y avait une espèce de continuité politique, par exemple qu'à Marseille c'est des projets qui ont commencé sous Godin et qui continuent.
Oui, effectivement, on a trouvé, donc avec le travail de Technopolis et de la Quadrature du Net, on a trouvé que la vidéosurveillance automatisée, elle était en place depuis 2018. Il y a eu d'autres formes d'expérimentation à Marseille avec des portiques de reconnaissance faciale dans des lycées qu'on a réussi à faire interdire en amont avant qu'ils soient déployés. Mais effectivement, il y a un peu une tradition, enfin pas une tradition, mais Marseille est plutôt active sur le sujet. Ouais. La ville est plutôt active et ça a commencé sous Godin et ça a été poursuivi effectivement avec la nouvelle mandature. Et où nous avons fait plusieurs recours avec l'aide de la Quadrature pour rendre caduques les contrats qui sont signés entre les startups, enfin les PME et la collectivité, avec succès pour les portiques. Mais effectivement, la nouvelle mandature continue en fait cette politique sans en faire grande publicité. Et c'est aussi tout l'enjeu de notre travail à Technopolis, c'est d'aller chercher la documentation. D'aller un peu fouiller, d'aller titiller et d'aller sur le terrain pour visibiliser ces caméras.
Et surtout, on peut peut-être rappeler sur Marseille, en fait, pourquoi aussi on s'acharne. Enfin, c'est que... Donc, en effet, le Printemps marseillais avait quand même dit dans son programme que... il y allait avoir un moratoire sur la vidéosurveillance et qu'il y a un audit qui serait fait. Donc il y a un audit qui a été fait, mais qui n'a pas été rendu public. Et donc on attend toujours d'avoir cet audit-là. Et c'est aussi, il faut se rendre compte que, voilà, à l'échelle d'une ville comme Marseille, 1600 caméras, ça coûte 7 millions d'euros par an juste pour les faire fonctionner et les entretenir.
Ah oui, parce que tu me disais que les caméras, elles sont données gratuitement.
Ouais.
C'est ça, comment ça se passe?
Bah, ou en tout cas, alors je ne sais pas si sur les 1600, elles ont été données gratuitement, mais peut-être qu'il doit y avoir au départ 30 gratuites. Mais en tout cas, ça a un coût énorme, rien que aussi, bah, il faut les raccorder à la fibre, il faut toute l'installation électrique, etc. Il faut nettoyer quand, en fait, s'il y a eu trop de vent, si elles sont à côté de la mer, qu'il y a voilà, de l'eau. Et voilà, ça coûte 7 millions d'euros par an. Et on se dit, bah, en fait, vu l'état des services publics à Marseille, peut-être qu'on pourrait en faire un autre usage. En fait, pour en fait, un dispositif qui a l'air, enfin, qui n'est pas efficace pour les intentions dont on lui presse, c'est-à-dire de prévenir l'insécurité dans la rue. C'est pas ça qui règle les problèmes. Et donc, on aimerait bien qu'il puisse y avoir un vrai débat autour de ça et pas que... Finalement, on nous installe des dispositifs et c'est du fait accompli, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on installe les choses et après, bah, en fait, si vous n'êtes pas content, tant pis pour vous, quoi. Et en fait, plus on en installe, enfin, ouais.
Et est-ce que vous pouvez raconter un peu, parce que vous disiez que c'est du travail de terrain que vous faites à Technopolis, donc raconter un petit peu, bah, comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites?
Et ben, comme on l'expliquait, donc il y a un travail d'aller chercher l'information. Puisqu'elle n'est pas donnée, donc on va lire, enquêter, voilà, faire de la recherche. Et on va aller sur place aussi pour voir où sont les caméras. Donc on va avec vraiment nos crayons et nos cartes pour les mettre sur une carte et après les donner, en fait, les transmettre cette connaissance aux autres collectifs, aux Marseillaises et aux Marseillais. Donc ça, c'est la première partie du travail qui est vraiment... Ok, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état de la situation? On visibilise les caméras. Ensuite, avec l'aide de la quadrature du net, on peut poursuivre les contrats ou la collectivité, effectivement, devant les tribunaux pour questionner la légalité de ces contrats. Ça, c'est la deuxième partie de notre travail. Et puis la troisième, et c'est celle dont on vient parler aujourd'hui, c'est une fois qu'on a fait tout ce travail d'enquête et de documentation, bah, en fait, transmettre la connaissance, en parler... pour informer les Marseillaises et les Marseillais que ça existe, parce que c'est vrai que c'est pas... on a un peu tendance à oublier, parce qu'elles font tellement partie du mobilier urbain qu'on les oublie. On sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas que derrière il y a des algorithmes, on sait pas que, voilà, elles sont reliées directement à la police qui les surveille depuis le centre qui est juste à côté d'ici. Donc c'est vraiment un travail d'éducation, de pédagogie, de transmission du savoir, et c'est ce qu'on va faire ce week-end.
Et c'est la deuxième édition. Alors, la première, ça s'était passé l'année dernière.
Oui, la première, ça s'est passé l'année dernière. Et on avait très envie de montrer, pour se donner du courage, et puis aussi pour montrer, en fait, donner à voir toutes les luttes qui existent, pour montrer que, en fait, il y a plein d'autres gens qui ne sont pas d'accord avec ça et qui luttent à différentes échelles, hein, au niveau local. Donc, parce qu'il y a aussi... la campagne Technopolis a fait plein de petits. Donc, il y a Technopolis Montpellier, il y a aussi un groupe à Fort-Calquier. Et puis, aussi, plus largement au niveau européen, il y a Technopolis Belgique. Et puis, on avait aussi invité une association qui s'appelle la Share Foundation, qui vient de Serbie, de Belgrade, qui avait énormément lutté contre, voilà, la mise en place de vidéos surveillance à reconnaissance faciale, déjà pour leur cas. Donc, voilà, c'était vraiment un festival autour de, bah voilà, il y a des luttes, donner à voir aussi le contre-discours, voilà, face à un discours en disant face à la sécurité, il nous faut de la technologie. La technologie est objective. Donc n'ayez pas peur. On peut en installer et ce sera pour le meilleur des mondes. Et donc voilà, c'était vraiment une centrée sur ça, avec aussi des projections, des débats, aussi des balades de carto. Et puis là, cette année, ça permet bien de refaire une édition, on voit tout ce qui s'est passé pendant un an.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors rappelez-vous, le mois de mars, février, le début de l'été, le mois de juillet, en fait, on a eu une année bien chargée en mouvements sociaux et en manifestation, et donc malheureusement aussi en répression policière, en violence policière et en meurtre policier. On voulait apporter, nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire de documenter notre expertise sur ces questions des dispositifs de surveillance. notamment sur la soirée du vendredi soir, où là, c'est une soirée qui s'appelle La police tue sous l'œil des caméras, et c'est vraiment on donne la parole aux familles de victimes de meurtres policiers pour que ces familles, les victimes puissent, enfin, qu'on entende leurs paroles qu'on n'a pas beaucoup entendues dans le débat. Et nous, qu'est-ce qu'on apporte par rapport à ça, à ce discours? C'est juste de dire, oui, dès que le débat sur les meurtres policiers, les violences policières, on nous ressort, on va mettre des caméras piétons, par exemple, ou on va mettre plus de vidéosurveillance. Et là, nous, on vient dire aussi, y a plein d'exemples, les caméras piétons, elles ne règlent pas la question derrière, qui est la question du racisme institutionnel et systémique dans la police, quoi. Donc, la technologie ne sera pas une solution ou un remède à cette question-là. On projette des films autour de cette question-là vendredi soir, et on aura un débat après, notamment avec une militante du collectif Vérité pour Ibo, où son histoire est racontée par son frère dans le film Frère, qui sera diffusé.
Donc ça, c'est vendredi.
Vendredi.
À Vidéodrome, ouais. À 19h.
C'est ça.
Exactement.
Et le samedi ?
Et le samedi, on parlera, donc on reviendra sur un peu plus, on prendra un peu de recul et on reviendra sur le terrain. Justement avec parce qu'aussi la technopolice, c'est pas marrant, mais on peut avoir un côté un peu plus ludique et jouer aussi avec les caméras et apprendre de façon un peu plus marrante. Donc on fera un jeu de piste à la Plaine et au Courju pour aller jouer avec les algorithmes, vraiment concrètement. Venez, c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit, enfin c'est à prix libre, et ça va être vraiment sympa.
Jouer avec les algorithmes.
Ouais, jouer avec les algorithmes. Venez voir, vous allez voir. Vous allez voir, c'est vraiment très drôle. Et on fera une promenade cartographique aussi à la Plaine pour montrer où est-ce qu'elles sont, bien comprendre, expliquer, etc., les enjeux de la surveillance dans ces espaces. Et puis le soir, on se retrouvera au Vidéodrome encore. Merci à eux de nous accueillir pour regarder un documentaire d'une réalisatrice chinoise qui parle de la répression des militants des droits de l'homme en Chine.
Ok, je crois que ça s'appelle Total Trust.
Exactement, ouais, tout à fait. Et c'est suivi d'un débat également. Et le dimanche, on se retrouve.
Et du coup, c'est aussi un débat sur le programme est marqué par rapport aussi à aux Jeux Olympiques.
Exactement,
et à cette loi sur la vidéosurveillance.
Tout à fait.
Algorithmique.
Exactement, ouais.
Oui, on reprendra bien le temps d'expliquer tous les enjeux autour de la loi JO, qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir. Et en fait, on ne sait pas encore tout. Il va falloir aussi être encore très vigilant sur comment ça va se mettre en place sur les différents événements à venir dans les deux, à partir de maintenant et jusqu'en 2024.
Oui, parce que quelque chose qu'on n'a pas encore précisé, mais la loi JO, elle sort du cadre purement sportif et purement olympique, puisque déjà elle est déjà en place et elle s'applique en fait à tous les grands événements, sans grande précision sur ce qu'ils sont explicitement, mais ça peut être les festivals, les concerts, les marchés, enfin tout ce qui est toutes les rencontres publiques en fait. Donc c'est pour ça qu'elle est extrêmement inquiétante, parce que c'est une généralisation, enfin on passe vraiment à l'échelle supérieure, quoi. On sort du test dans des villes comme à Marseille pour le faire vraiment au plan national, et en plus c'est légal. Donc c'est de ça dont on voudra parler samedi soir et aussi le dimanche, puisque le dimanche on propose de se retrouver à Manifesten dans l'après-midi autour d'ateliers créatifs. Parce que pour créer aussi des logos, des slogans, des panneaux, de réfléchir comment mobiliser sans forcément que ce soit des tracts ou des prospectus. On fera aussi des tracts et des prospectus, mais si vous avez la fibre artistique, venez nous retrouver. On passera toute l'après-midi à la Plaine et à Manifesten autour de ça, quoi. Ouais, comment se mobiliser, comment agir aussi et comment lutter toutes et tous ensemble.
Oui, c'est aussi lutter contre le fait d'être individualisé et d'avoir un peu ce sentiment, souvent quand on parle des technologies de surveillance, ça donne un peu un sentiment d'écrasement, de fatalité. Mmh. Et donc là, vous, tout le travail que vous menez, c'est pour aussi contrer ça.
Exactement, ouais, et à réfléchir ensemble aussi. Et ça, c'est important pour nous à Technopolis et lors du festival, de se dire, OK, on peut réfléchir peut-être à une autre forme de société où la surveillance ne serait pas par défaut. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire être en sécurité autrement que vivre sous l'œil des caméras, quoi. Est-ce que c'est la sécurité alimentaire, la sécurité d'un logement, la sécurité sociale, voilà, de vivre ensemble autrement que comme ça, quoi. Donc ce sera l'occasion.
Et du coup, sur Technopolis Marseille, est-ce que c'est un collectif plutôt de spécialistes, de chercheurs, de geeks? Comment ça se passe?
Bah, tout le monde est le bienvenu, la bienvenue. Donc, il n'y a pas de. Voilà, on n'est pas des. Il y a un historique, on va dire, libriste et voilà, lié à la quadrature. Il y a quelques juristes, il y a quelques. Mais bon, c'est vraiment ouvert à tout le monde et on n'est pas des geeks. Comme... Voilà, c'est.
Non, il faut juste être motivé, ouais, avoir être envie de chercher et être. Bah, si on est créatif ou créative, c'est génial. Si on est très militant, c'est génial. Enfin bon, vraiment, on est très ouvert. On se retrouve tous les deuxièmes jeudis du mois à 19h à Manifesten. Et c'est toujours des réunions qui sont ouvertes à tout le monde et libres. Et, on fait la réunion un peu en fonction de qui est là. Si c'est des personnes, si on est tous, on se connaît, on avance sur les sujets qu'on a envie d'avancer. S'il y a des nouvelles personnes, on explique qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Voilà.
Ah, et on a oublié aussi de parler de la première du jeudi. Donc c'est demain, quoi. Qu'est-ce qui se passe demain pour le lancement du festival?
Et oui, carrément, je me disais, on a oublié. Alors que donc demain, en fait, il y a une discussion à la librairie d'Hydre à Mille Têtes avec c'est Félix Tréguer qui vient présenter son livre Contre-histoire d'Internet. En fait, donc là, c'est vraiment, on prend beaucoup de recul. On n'est pas tellement, enfin, on est moins centré forcément directement sur la question de la technopolis, mais c'est quand même des questions qui se rejoignent parce que, voilà, Félix, il retrace en fait l'histoire d'Internet dans une histoire plus large qui est comment l'État met en place des stratégies de censure des nouveaux moyens de communication. Et finalement, Internet est un nouveau moyen de communication qui s'est développé à partir des années 90. Et voilà, comment l'État s'approprie, se réapproprie ce nouvel outil et il discute de ça. Et surtout, Félix est un des membres fondateurs de la Quadrature du Net et aussi qui participe au collectif Technopolis Marseille.
Donc ça, c'est demain
à l'Hydre.
À quelle heure?
À 19h.
À 19h, d'accord. Et l'Hydre, ben, qu'on salue, et on fait aussi un petit message de solidarité, parce qu'ils ont été attaqués, ils ont été victimes d'un incendie criminel il y a une semaine, et voilà, ils continuent à accueillir des événements, à permettre que ce genre de rencontre puisse exister.
Ouais, carrément. D'ailleurs, on les remercie. Et en plus, ils auront aussi une table au Vidéodrome 2 le samedi avec une sélection de livres autour des questions voilà, que le festival soulève. Donc vraiment aussi, vendredi, samedi, on aura une table d'info-kiosque et la table de sélection de livres de l'Hydre. Donc voilà, c'est aussi un moment où vous pouvez juste venir passer, nous rencontrer, discuter. Voilà, on est ouvert sur le cours Julien. Enfin, on est dehors sur le cours Julien, donc c'est un moment de discussion et de débat.
Bon, bah, vraiment, on vous invite vraiment à venir ce week-end. Et si jamais vous ne pouvez pas venir ce week-end, il faut aussi aller regarder le site de Technopolis qui est vraiment très très fourni. Il y a plein de choses sur ce site
et même sur le, en fait Une des manières aussi, si vous voulez vous impliquer, peut-être que vous êtes un peu timide, et bah, vous pouvez aller sur le forum, forum.technopolis.fr, et qui est même, en fait, même sans vous inscrire, vous pouvez voir tout ce qui s'y dit et tout ce qui s'y fait. Et il regorge aussi d'informations très intéressantes. Et si vous n'êtes pas sur Marseille ou tout ça, c'est aussi une manière, si vous avez envie de créer un groupe local, de dire, bah voilà, moi je suis intéressée par ces questions-là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, pour se mettre en contact?
Ouais, parce que sur le site, donc, on voit tout ce qui est l'actualité, des mobilisations, des campagnes juridiques. On voit aussi ville par ville les dispositifs. Il y a une cartographie vraiment. On a accès aux cartographies des dispositifs de contrôle. Il y a un onglet aussi sur les entreprises où il y a vraiment des enquêtes de fond sur ces entreprises qui proposent, enfin qui vendent toute cette technologie. Et il y a vraiment, enfin voilà, il y a aussi des documents participatifs, là, le carré, c'est assez impressionnant aussi, c'est toutes les questions qui se posent, c'est vraiment un travail collaboratif ouvert.
Complètement, ouais, c'est vraiment aussi ouais, dans le, ouais, la volonté de la quadrature, et là on voit bien aussi l'héritage du logiciel libre, avec vraiment une volonté d'ouverture et de transparence. Et je voulais aussi citer, on a parlé, Alice, elle parlait une de nos actions qu'on fait sur Marseille, c'est donc ce qu'on appelle les cartoparties, où on va donc cartographier les caméras de surveillance qu'on met sur donc OpenStreetMap. Et donc c'est une carte collaborative en fait qui existe au niveau de toute l'Europe et que vous pouvez retrouver sur un site en fait qui s'appelle sunders.uberspace.de, donc sunders sunder. Je crois avec un s, sunders.uber uberspace.de, c'est en allemand.
Je le mettrai de toute façon dans le podcast pour les auditeurs auditrices de Radio Galère.
Ouais.
On mettra toutes ces infos accessibles pour y revenir.
Ouais.
Puis le mieux, c'est de venir ce week-end vous rencontrer au festival.
Ouais.
On va bientôt se quitter. Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses qu'on aurait pu oublier?
Non, mais merci de nous avoir accueillis. Et rendez-vous ce week-end. Et tout est accessible à prix libre. Donc on vous attend. Et un grand merci à ces trois lieux qu'on aime beaucoup, l'Hydre, le Vidéodrome et Manifestaine, de nous accueillir aussi chaleureusement. On est vraiment très contentes.
Oui, des lieux sur lesquels on ne pourrait pas organiser ce type de festival. Et d'ailleurs, l'année dernière, on avait organisé une soirée à la DAR après, mais là, on n'a pas pu. Mais en tout cas, ils font une soirée aussi le samedi soir, et je pense que ça vaut le coup pour aussi les soutenir sur leur rachat du lieu. Donc, n'hésitez pas à venir voir un petit film, et puis après, aller danser à la DAR.
T'es encore sous MT.